RFI 6h30, à Paris 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite le journal. Bonjour Vincent Dublanche.
Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Et on fait le point sur les combats entre le M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise et ses multiples alliés dans le Nord Kivu. Le patron de l'ONU condamne l'offensive récente du groupe armé M23. Des réactions politiques également. Après l'annonce tard, mercredi soir, de la date de la présidentielle au Gabon, 12 avril, les oppositions la contestent. On en parle aussi avec notre invité après cette édition. Et puis l'économie nigérienne, selon le FMI, les perspectives sont bonnes, vive le pétrole. Mais attention à la dette. Le journal des sports dans 10 minutes, c'est le gros coup du mercato hivernal en Europe. L'Égyptien Omar Marmouche quitte Francfort pour Manchester City. Et d'abord, donc, direction Kinshasa. On va faire le point sur les combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé du M23, qui est appuyé militairement sur le terrain par l'armée rwandaise, a lancé une offensive. On en parle, ça fait maintenant plusieurs jours. Les combats ont repris ce matin vers 4h sur l'une des deux lignes de front, celle de Kibumba au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. C'est en revanche plus calme à l'heure où l'on parle à Sake, Patient Ligodi.
Oui, vous l'avez dit Vincent, c'est depuis 4h du matin heure locale que les tirs ont repris à Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Des nouveaux déplacements de population sont aussi signalés. Au sujet des Sake, la ligne de front est relativement calme ce matin. Selon des sources locales, le M23, soutenu par les forces spéciales de l'armée rwandaise, était donc présent à Sake jeudi quasiment toute la journée. Des échanges, des tirs ont été signalés jusque tard dans la nuit. Les forces armées de la RDC et les FRDC ont intensifié leurs opérations en déployant des hélicoptères et des mortiers pour contrer l'avancée de ces combattants. Les casques bleus, ont apporté un soutien aux forces congolaises. D'après les informations obtenues par RFI, au milieu des affrontements entre FRDC et M23, des obus de mortiers en provenance d'une zone contrôlée par l'M23 auraient touché des positions de la MONUSCO et leurs environs à Sake. Cet incident a causé des blessures légères à 3 casques bleus, selon les mêmes sources. Jusque tard dans la soirée d'hier, des tirs de mortiers continuaient d'être entendu dans la zone. Les casques bleus restent déployés sur place, leur mission étant limitée à des actions défensives dans les cadres de leur mandat de protection des civils. Parallèlement, un autre front actif a été signalé jeudi soir dans le territoire des Niragongo au nord de Goma toujours. Les habitants du village de Roussayo, situé dans le groupement Mudja, ont rapporté des affrontements entre FRDC et M23. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dès l'aube environ 20 km de Goma. Un obus tombé dans le quartier des Turunga a causé la mort des deux civils. Un autre aspect préoccupant de cette situation est la guerre technologique. Des perturbations de communication ont été signalées tout au long de la journée d'hier dans les zones de Sake et de Goma, Kinshasa. Les États-Unis, des experts des Nations Unies ont à plusieurs reprises accusé Kigali de manipuler des signaux GPS en brouillant des communications ou en émettant des faux signaux dans la région.
Patient Ligodi, merci beaucoup. En direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et comme à chaque escarmouche, à chaque nouveau combat, des milliers de civils fuient. On en parle largement sur notre site internet et notre application pour téléphone mobile RFI. Nous sommes allés à la rencontre de déplacés à Goma. Une situation qui pousse en tout cas le secrétaire général de l'ONU à réagir. Antonio Guterres condamne l'extension de l'offensive du M23 qui accroît selon lui le risque d'une guerre régionale. Il appelle le groupe armé à se retirer de toutes les zones occupées, à respecter l'accord de cessez-le-feu de juillet dernier. Antonio Guterres demande, je cite, à tous les acteurs de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et de mettre fin à toute forme de soutien aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Fin de citation.
Libreville, 104 FM.
Au Gabon, les électrices et les électeurs sont donc appelés aux urnes le 12 avril prochain pour la présidentielle. Ce sera une étape majeure vers la fin de la transition en place depuis le putsch militaire qui a renversé Ali Bongo il y a maintenant quasiment un an et demi. La personne qui sera élue dirigera le pays pour les 7 années à venir. L'annonce de cette date du scrutin présidentiel a forcément suscité des réactions politiques que nous résume ce matin Yves-Laurent Gomard.
Ancien vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, conteste la nouvelle constitution et le nouveau code électoral. Il explique avoir été piqué au vif à l'annonce de la date du premier tour de l'élection présidentielle dans moins de 3 mois.
Nous refusons catégoriquement ces dates qui ne sont pas consensuelles, concertées par la classe politique. C'est une aberration et nous invitons à plus de concertation, à un dialogue, non pas dans la peur, mais dans la sérénité.
Pierre Claver Maganga-Moussavou accuse le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, de se tailler un processus électoral à la hauteur de ses ambitions politiques. Ce n'est pas l'avis de Gérard Elan Nguema, président du Front patriotique gabonais, député et troisième secrétaire de l'Assemblée nationale.
Nous sommes d'accord avec cette date. Nous pensons que la décision prise par le dernier Conseil des ministres est une bonne décision pour que nous puissions retrouver l'ordre constitutionnel dans les tout prochains jours.
Tous les textes en vigueur autorisent le général Oligui Nguema à être candidat à la présidentielle. Mais le président de la transition maintient le suspense. Des leaders politiques et de la société civile lui demandent de respecter sa promesse de remettre le pouvoir aux civils après avoir organisé des élections libres, crédibles et transparentes. Yves Laurent Goma, Libreville. RFI.
Et lui n'a aucun doute que le général Oligui Nguema sera candidat le samedi 12 avril. L'analyste politique Bergès Mietté est l'invité de Christophe Boisbouvier dans 10 minutes. Il pose aussi la question de la ou des personnalités de l'opposition qui seront en mesure ou non de se présenter le 12 avril prochain au Gabon. Il y a encore quelques semaines, la découverte n'aurait pas été possible. Si elle avait eu lieu, elle aurait été vendue au marché parallèle en toute illégalité. On est en République centrafricaine pour parler de cet énorme diamant qui vient d'être mis au jour, 177,95 carats. C'est l'un des plus gros jamais extraits du sous-sol centrafricain. Il a été sorti très précisément de terre à Nzako, c'est à plus d'un millier de kilomètres de Bangui. Son collecteur vient de l'amener dans la capitale centrafricaine pour expertise. Et cela est rendu possible par la levée récente des sanctions qui visaient jusqu'ici l'activité diamantifère dans le pays. RFI Bangui, Rolf Steph Domialeux.
C'est un diamant translucide qui ne présente aucune teinte visible à l'œil nu. Cette découverte intervient après la levée en novembre dernier de l'embargo imposé par le processus de Kimberley, une organisation qui régule le commerce des diamants. Après la crise militaro-politique de 2013, cet embargo avait été instauré sur les exportations de diamants centrafricains pour éviter le commerce de pierres précieuses issues des zones de conflit. Rufin Benam Beltungu est le ministre centrafricain des Mines.
Et au bénéfice de la levée totale de l'embargo, cette population qui était meurtrie a repris ses activités de production de diamants. C'est en cela qu'un artisan a découvert un diamant de 177,95 carats. Puisque vous connaissez comment la chaîne de traçabilité est organisée chez nous en République centrafricaine, c'est comme cela que le collecteur qui est propriétaire de cette pierre a ramené cette pierre ici à Bangui.
Mais pour l'instant, il est trop tôt pour estimer la valeur de ce diamant, explique le ministre.
Nous laissons le temps à l'équipe d'experts du BEC de pouvoir expertiser en toute quiétude et ils vont produire leur rapport. Et aujourd'hui, cette pierre se trouve entre les mains de l'administration publique. Mais cette pierre appartient au collecteur qui en avait financé la production.
Alors que certains investisseurs étaient réticents à un retour en Centrafrique après des années de crise, cette découverte est selon les autorités un signal fort pour relancer l'économie du pays. Rolf Steve Domerleu, Bangui, RFI.
4% de croissance globale, la hausse du produit intérieur brut africain se rapproche de celle de l'Asie cette année. Ce sont les prévisions de l'Agence française de développement. Satisfait notamment pour l'Afrique du Sud, première économie continentale qui a largement mis derrière elle les soucis de production d'électricité. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Rwanda poursuivent leur diversification dans les services, dit l'AFD. Les matières premières vont également porter de nombreux pays, notamment parce que beaucoup de cours mondiaux sont hauts. La RDC ou la Zambie devraient par exemple profiter d'un cuivre cher. Même si le pétrole est plutôt orienté à la baisse en ce moment, le Sénégal et le Niger devraient voir leurs revenus bondir. Le Fonds monétaire international qui fait d'ailleurs lui aussi son bilan concernant le Niger. Une reprise robuste au Niger, dit l'institution qui décaisse 51 millions de dollars. Alexis Bédu.
Le pétrole nigérien en accélérateur de croissance, ce sont les prévisions du Fonds monétaire international. Croissance du PIB estimée à 8,8% pour 2024 grâce à la production pétrolière. C'est en deçà de certaines prévisions réalisées en début d'année. Pour rappel, la Banque africaine de développement tablait alors sur plus de 11%. L'augmentation des richesses devrait se poursuivre cette année avec des exportations d'or noir qui s'accentueront grâce à la normalisation des activités commerciales commerciale avec le Bénin, dit le FMI, même si la frontière reste aujourd'hui fermée. Cependant, les risques de crise de la dette sont élevés, assure l'institution financière. L'économie nigérienne est en effet toujours fragile, prise au piège entre les conflits armés, les chocs climatiques et l'instabilité politique. Les sanctions prises suite au coup d'État de juillet 2023 ont aussi affecté durablement les conditions économiques et sociales. Enfin, un gros travail doit être réalisé pour mobiliser le secteur privé, répète le FMI. L'accès à des financements pour ces entreprises reste encore très limité.
Alexis Bédu du service économie de Radio France Internationale au Bénin. Le procès Boko Hombeki renvoyé à mardi prochain, décision du tribunal de la CRIAT hier pour donner 5 jours aux 6 co-accusés de complot pour trouver de nouveaux avocats. Pendant ce temps, la CRIAT a condamné hier un régisseur de la Direction Générale des Impôts et un féticheur à 30 ans de prison pour avoir détourné il y a 6 ans maintenant plus de 4 milliards de francs CFA d'argent public. Il est 7h et quasiment 41 minutes au Caire. Le ministre britannique des Affaires étrangères y était hier, David Lammy, qui a évoqué le cessez-le-feu entre Israël et le mouvement palestinien Hamas à Gaza. Le conflit au Soudan aussi, la plus grande crise humanitaire au monde. Le chef de la diplomatie britannique en a aussi profité pour parler avec son homologue égyptien du cas d'Ala Abdel Fattah, militant des droits humains qui a la double nationalité, qui multiplie les séjours en prison depuis 10 ans et dont la mère est en grève de la faim depuis maintenant quasiment 4 mois. Africa CDC entend accélérer la vaccination contre le Mpox, notamment en RDC et à Kinshasa tout particulièrement. 180 000 personnes y sont désormais vaccinées, dit l'Agence de l'Union africaine pour la santé. On va terminer ce journal au Cameroun. Autre campagne de vaccination lancée il y a un an, celle contre le paludisme, avec ce vaccin RTS-S. Le Cameroun qui devenait il y a un an le premier pays à l'utiliser, en dehors bien sûr des tests qui ont été effectués au Ghana, au Kenya et au Malawi. 4 doses sont nécessaires pour atteindre l'efficacité optimale. Seuls 42 districts sanitaires sur 200 sont concernés. Les premiers constats sont encourageants, dit le docteur Shalom Chokfe Ndoula, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination au Cameroun. Il constate notamment une baisse du nombre de consultations médicales.
S'il y a 17% de consultations en moins, ça veut dire que les gens tombent moins malades et on fait une supposition que c'est surtout parce qu'ils sont moins malades du paludisme. Et là, on parle de la population de moins de 5 ans. Même avec un nombre limité de doses de vaccins, même avec un temps de recul très faible, la tendance est déjà positive dès la première année. En fait, c'est un résultat très, très remarquable sur les données empiriques et aussi sur les témoignages des parents très, très positifs. Donc, il est évident que maintenant que nous avons passé la première année, qu'on réfléchisse à l'extension. On va espérer que les pressions des organisations qui militent pour améliorer les accès à la vaccination va quand même baisser le prix. C'est ce que nous souhaitons tous pour qu'un outil aussi important dans la santé publique, on ne devrait pas avoir des barrières financières pour y accéder.
Actuellement, la dose coûte environ 9 dollars, coût supporté par le Cameroun et par l'Alliance mondiale pour le vaccin Gavi. Dossier signé Amélie Tullet. Et vous retrouvez Julien Coquelrouem.
Merci Vincent.